pris en récession et à ne pas connaître 10 années de faible croissance comme dans les années 70. C'est l'enjeu et nous avons besoin que toutes les parties prenantes participent à l'élaboration d'une économie mondiale plus sûre, plus inclusive et en croissance.
La Banque mondiale a prévenu en octobre dernier que les progrès dans la lutte contre l'extrême pauvreté étaient au point mort dans un contexte d'inflation galopante et de ralentissement de la croissance économique.
Merci beaucoup, Didi. Place maintenant à nos invités pour en débattre. Ici à Washington, Ramayad, vous êtes directrice Afrique de l'Atlantic Council, un think tank basé à Washington. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme, puis secrétaire d'État au sport en France. À Nouakchott, en Mauritanie, nous avons Daouda Sembeen, fondateur et PDG du cabinet Afrique Catalyst, membre non résident du Center for Global Development, basé ici à Washington. Et puis à Paris, Younes Belfella, économiste consultant, et vous êtes fondateur du think tank MedFocus. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Ramayad. Parlons de disparité. Doit-on voir un lien forcément entre les 1% d'hyper riches et une paupérisation de plus en plus répandue, surtout dans les pays en développement? Est-ce qu'il y a forcément un lien?
Cette question ne manquerait pas d'y voir un lien. Ce qui dépend de la lecture qu'on a du commerce mondial. Mais je pense plus sérieusement. Qu'aujourd'hui l'économie mondiale fait face à des chocs immenses. Nous vivons une période de transition qui n'en finit pas, avec notamment les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, évidemment, la hausse, le renchérissement des prix de l'énergie et évidemment des prix alimentaires, ce qui pèse fortement sur l'inflation. Et donc mécaniquement sur le niveau de vie des populations, notamment des pays en développement. Et puis deuxièmement, un choc plus structurel qui a commencé il y a bien plus longtemps, c'est le choc climatique qui engage aussi une transition qui n'en finit pas vers la transition verte. Et là, les besoins sont immenses et les réponses ne sont pas encore à la hauteur.
D'accord.
Donc, c'est sans doute c'est une partie de l'explication, mais évidemment, ce n'est pas suffisant.
D'accord. Alors, Daouda, quand Oxfam demande qu'on taxe davantage les riches et réduire de moitié même le nombre de milliardaires pour lutter contre la pauvreté, est-ce qu'il y a un argument économique qui soutient cette thèse ou s'agit-il plutôt d'une position militante?
Bon, en fait, tout d'abord, il faut reconnaître effectivement qu'il est avéré que dans certains pays, la taxation des couches plus aisées de la population peut être un instrument pour pouvoir réduire la pauvreté, mais surtout aussi les inégalités. Donc, en fait, il y a effectivement quand même un besoin de considérer ce genre d'instrument dans la lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités. Mais cependant, il faudrait quand même être assez prudent, parce qu'en fait, pour qu'un impôt sur la richesse des personnes aisées puisse vraiment être efficace et permettre de réduire les inégalités, il faut qu'il soit assis sur un système fiscal performant. Et ça, c'est extrêmement important.
D'accord.
Mais il faut également, en fait, prendre aussi la dimension de la confiance dans le consentement à l'impôt. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tout pays, il y a également un certain civisme fiscal qui est, en fait, motivé par un certain nombre de facteurs économiques, sociologiques et culturels. Et donc, s'il n'est pas vraiment adéquatement pris en compte, cette taxation des riches peut-être se révéler être contre-performant. Et peut-être pour terminer, ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, il faudrait éviter aussi ce qu'on appelle la double taxation, qui peut pousser en fait les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur la richesse transférer des actifs à l'étranger, ce qui pourrait constituer un manque à gagner pour l'économie.
D'accord. Et Younes, cette position d'Oxfam est quand même défendue par des millionnaires comme le Britannique Phil White, et le thème principal du forum de Davos et de cette année est l'unité dans un monde fragmenté. Est-ce que ce n'est pas quand même un vœu pieux un peu?
Moi, tout d'abord, je crois que le rapport, certes, il présente des chiffres qui sont accablants par rapport à la question de 1% des riches détient 63% de la richesse mondiale, ou quand on entend qu'il y a 10 milliardaires au niveau mondial qui détient la richesse de 3,5 milliards de personnes. Donc quand même, c'est des chiffres qui sont très intéressants et qui montrent le nombre et le volume, on va dire, de disparités. Maintenant, la solution qui était présentée dans ce rapport, et c'est ça la plus intéressante, c'était seulement de parler de la fiscalité, des taxes sur les super profits, peut-être pourquoi pas des taxes sur les dividendes. On voit aussi l'importance qui est donnée dans le rapport sur le rôle de l'État, c'est-à-dire un retour de rôle de l'État, une présence au niveau des conseils d'administration, dans le sens de dire l'État contrôleur.
Mais pour ne pas un peu aussi stigmatiser les riches, comme certains le disent ici aux États-Unis.
Tout à fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand j'entends qu'il y a un discours qui est aussi très très proche sur ceux de la gauche au niveau français et francophone, et quand ils parlent qu'on veut plus de milliardaires, moi je trouve que la bonne réponse, ça sera de dire qu'on veut plus des pauvres.
D'accord.
Et comment on peut faire? Ça sera plus de travail, pas seulement au niveau fiscalité, mais il nous faut un travail au niveau institutionnel.
D'accord.
Au niveau des initiatives qui sont présentées par les institutions internationales.
Oui. Ramayad, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a dit que l'année pourrait être une année marquée par des tensions sociales à cause de l'inflation et de la hausse des prix. Ce n'est pas vraiment rassurant tout ça, surtout pour les pays africains aux économies fragiles et secouées par des crises politiques, n'est-ce pas?
C'est vrai que les déclarations de la directrice du FMI ont tiré la sonnette d'alarme. Puisqu'elle a annoncé qu'en 2023, effectivement, un tiers de l'économie sera en récession et que cette année qui vient sera plus difficile que la précédente. On était à 3,2% de taux de croissance en 2022 et puis il est annoncé une croissance de l'ordre de plus de 2,7%. Évidemment, les principaux moteurs de économique de la planète, que sont les États-Unis, la zone euro ou la Chine, vont connaître une panne. Mais personne n'est épargné, y compris le continent africain. Mais en même temps, ce continent africain, la projection est supérieure pour elle. Hein. On est un peu plus de 3,5%. Elle fait donc mieux. L'Asie résiste aussi pas mal grâce à l'Inde.
Ça, c'est au niveau des chiffres, mais beaucoup vous diront que le Sénégalais lambda, le Congolais lambda quand même souffrent beaucoup des chocs externes.
Oui, vous citez le Sénégal par exemple qui va être qui est au niveau supérieur au-dessus de la moyenne du continent. En termes de croissance, c'est même là que les prévisions sont les plus élevées, au-dessus de 8%, grâce sans aucun doute aux prévisions sur le secteur du pétrole. Mais vous avez raison, l'inflation reste une menace, vous avez raison, la sécurité alimentaire, vous avez raison, structurellement, la pauvreté reste un défi majeur. Mais là encore, moi, la réponse sera pour moi, elle ne peut être que structurelle. Et cela veut dire une redistribution des cartes au niveau mondial, avec une redéfinition des règles, l'accès à davantage à l'investissement. Il est très important qu'on lève et empêche les investisseurs d'investir en Afrique et l'Afrique d'être attractive en termes d'investissement. Pour moi, c'est ça la clé.
Et Daouda Sembène, ces prévisions de baisse de la croissance avec tous ces risques de tension dans les pays en développement, est-ce que ces risques sont réversibles et comment?
Bon, en fait, effectivement, lorsque le FMI fait ses prévisions, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage, en fait, il y a quand même des risques assez élevés de récession cette année. Et comme le disait tout à l'heure Rama, un tiers de l'économie mondiale risque d'entrer en récession selon la directrice générale du FMI. Les économistes, en fait, s'accordent pour dire que en fait, l'économie mondiale devrait entrer en récession cette année. En fait, est-ce que c'est réversible, en fait? fait, c'est une bonne question parce que lorsque le FMI fait ses prévisions, il le fait selon ce qu'il appelle le scénario de base, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, cette situation devrait quand même être relativement défavorable. Les perspectives économiques sont assez négatives d'une certaine manière. Mais il faut dire quand même qu'il y a des possibilités de retournement de la situation. D'abord, il y a des facteurs exogènes qui peuvent être cités. Là, par exemple, récemment, la Chine a éliminé sa politique zéro Covid, ce qui, selon les économistes, devrait peut-être aider un peu à booster un peu les perspectives de croissance de cette économie, qui est la deuxième économie mondiale. Il y a aussi, en fait, d'autres éléments positifs qui peuvent être évoqués. De manière générale, même si un tiers de l'économie mondiale devrait entrer en récession, l'économie mondiale, dans son ensemble, devrait échapper à la récession cette année.
D'accord. Ça, c'est un peu positif. Et Younes Belfella, comment éviter ou limiter les chocs sur les populations les plus vulnérables, éviter que cela n'attise des tensions sociales?
Bah, tout d'abord par la distinction de ce qui était cité normalement dans le rapport d'Oxfam, c'est-à-dire il faut distinguer entre les rentiers et les entrepreneurs. C'est-à-dire le problème, et d'ailleurs c'était le cas même en Afrique, c'est-à-dire il y a pas mal de milliardaires qui ont fait énormément de richesses grâce à des programmes d'aide internationaux ou même aussi à des marchés publics, et on les considère comme étant des entrepreneurs alors qu'en réalité c'est des rentiers. Maintenant la solution, certes, c'est l'investissement. Moi, je suis même contre la politique d'aide qui est donnée par les organisations internationales parce que forcément, elle a contribué à plus de corruption que la création d'emplois ou bien la création de richesses. Maintenant, ce qui se passe actuellement par rapport à cette conjoncture, certes, on est face à une récession. Peut-être qu'il y a même d'autres pays qui vont rentrer prochainement dans des crises et pratiquement des crises de dette, parce que quand je vois qu'il y a des pays qui dépassent 70%, 80%, 90% des dettes de PIB au niveau du PIB, donc ça montre qu'on est quand même face à une crise de solvabilité extrêmement importante. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous a montré en fait la crise du Covid et même la guerre en Ukraine, c'est que la vulnérabilité n'a pas un sens unique. C'est-à-dire qu'elle arrive à certains moments à s'exporter ailleurs. Soit d'accord. Par l'immigration, soit par la corruption, soit par le terrorisme. Donc ce qui fait que la protection des pays vulnérables est un devoir très important des puissances internationales. Alors, Younes, pour oui. Éviter le pire.
D'accord. Alors on va aller rapidement aux commentaires laissés par nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est à N'Djamena. Il nous dit, pour stopper l'inflation mondiale et éviter une récession, le Fonds monétaire international devrait accepter la subvention de certains produits en encourageant le développement également d'activités génératrices de revenus dans le monde rural. Yao Marcelin Kofi, lui, est à Abidjan. Il écrit, les conflits armés et surtout l'absence d'une bonne politique économique sont des facteurs aggravant la pauvreté sur le continent. Vivement que le conflit russo-ukrainien prenne fin. Et puis Hassanou Marboulale à Djibouti nous dit qu'il faut une concertation entre pays développés et pays pauvres et surtout mettre en place une politique de création d'emplois et lutter pour l'équité. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Ndeko Eli Sango, Bote la Bino Banso, Mozambique Kolanda, Saona Lingala, La Voix de l'Amérique, Puto, Washington DC.
Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de La Voix de l'Amérique.
Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel.
Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde.
Sangwe Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
De vous retrouver.
retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités, ici à Washington, Ramayad, directrice Afrique de l'Atlantic Council, un think tank basé à Washington. À Nouakchott, Daouda Sembène, PDG et fondateur du cabinet Africa Catalyst, membre non résident du Center for Global Development, basé ici à Washington. Et à Paris, Younes Belferra, économiste consultant, fondateur du think tank MedFocus. Madame Ramayad, la bonne gouvernance est souvent évoquée quand il s'agit de développement. Avant de parler d'une justice économique au niveau mondial, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même s'attaquer à cette question de la bonne gouvernance, notamment en Afrique?
Bien sûr, évidemment, je pense que l'investissement, l'entrepreneuriat, l'économie en général ne peut pas, ne peuvent pas bien fonctionner dans un contexte de corruption ou de mauvaise gouvernance. Mais en même temps, entendons-nous bien sur les mots. Si certains investisseurs plaident pour la stabilité ne signifie pas forcément la démocratie. Suivez mon regard. Donc la question est un peu plus complexe que cela. Je crois que aucune économie n'est soutenable à long terme si les populations ne se sentent pas libres ou n'ont pas le choix de leurs dirigeants. Néanmoins, je pense que la démocratie ou la bonne gouvernance, c'est pas seulement au niveau des nations, c'est aussi au niveau du monde. Vous avez commencé par le World Economic Forum. Je pense le World Economic Forum arrive à un moment de son histoire où il est important que se pose cette question de la bonne gouvernance mondiale aussi. Et cela passe par une redistribution des cartes. On parlait du FMI tout à l'heure. Mm-hmm. Vous savez combien le FMI a joué un rôle très important dans la gestion de la pandémie et de ses conséquences dans les pays pauvres, justement, en allouant des droits de tirage spéciaux. Mais on sait aussi que cette allocation ne s'est pas faite forcément de manière équitable pour les pays à bas revenus. Je rappelle quand même que l'Afrique a besoin de plus de 400 milliards pour conduire pour se remettre dans les années qui viennent de ce qui s'est passé. Et il est très important que on réforme l'architecture de développement au niveau international pour que précisément les pays en voie de développement puissent d'abord peser un peu plus dans la gouvernance mondiale, mais que deuxièmement, ils aient aussi les moyens de s'attaquer à ces grands défis qui vont entraver pour des décennies sa croissance et son développement si on y prend garde, que ce soit le choc énergétique, le choc climatique ou encore même plus de manière plus sécuritaire, le choc de la pauvreté qui peut avoir des conséquences dans la stabilité et la sécurité de ces pays.
Et Daouda, il y a des facteurs exogènes comme la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, en bref le contexte mondial, mais il y a aussi les facteurs internes pour ce qui est de l'Afrique. Où se trouve l'équilibre ou, pour ne pas dire, la priorité?
Bon, en fait, moi, je pense que tout est important. Ces facteurs exogènes dont vous parlez, comme les facteurs endogènes. Et parmi les facteurs endogènes, en fait, à mon avis, une bonne politique économique s'avère essentielle pour répondre à la crise, que ce soit au niveau de la politique monétaire comme au niveau de la politique budgétaire. Je pense que c'est important de pouvoir utiliser ces réformes de la meilleure manière pour faire face à la crise actuelle donc qui secoue le monde et l'Afrique en particulier. Donc à mon avis, effectivement, il est important de s'assurer que les gouvernements aient suffisamment de capacités pour le faire. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, on a vu quand même ces dernières décennies une amélioration sensible des politiques économiques. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, effectivement, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'on a plus besoin d'une bonne politique économique saine pour faire face, en fait, à ces effets cumulés de la crise en Ukraine, mais aussi, en fait, de ce qu'on a connu avec la crise de la COVID.
D'accord. Et Younes, Madame Ramayad parlait tantôt de la gouvernance mondiale. Ce n'est pas aussi facile pour les pays du Sud de se départir de cette gouvernance économique mondiale. On a vu des pays comme le Ghana qui ont fini par revenir vers le FMI à cause d'une crise économique qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
De toute façon, certainement, la question de la bonne gouvernance, elle est très importante. Elle est très importante pour les nations, d'abord, parce que il faut qu'on signe aussi qu'il y a une dégradation de la question démocratique. Les chiffres de Freedom House, par exemple, nous parlent qu'il y a 10 ans, on avait 50% de la population mondiale qui vivait dans des États démocratiques. Actuellement, ils ont chuté vers 20% seulement de la population mondiale. S'ajoutant à cela, la question des institutions internationales, c'est-à-dire que la Banque mondiale, le FMI ou même l'ONU, moi je trouve que c'est des institutions qui étaient créées dans le siècle précédent. Maintenant, on est face à une nouvelle génération de problématiques économiques. La question du climat, le choc énergétique, la démographie même, qui est très importante et qui est une des questions inéluctables pour discuter et pour parler de l'Afrique. Et s'ajoutant à cela, les impératifs de cette crise du Covid avec la guerre en Ukraine. Il faut juste rappeler que le programme mondial alimentaire, il nous signale comme quoi il y aura 350 millions de personnes qui risquent la famine en 2023 pour comprendre la complexité de cette problématique. Maintenant, certes, par rapport à la question qu'on a discutée tout à l'heure sur la fiscalité, je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à faire une définition des rôles de l'État. Est-ce qu'on veut l'État stratège, visionnaire, actionnaire, entrepreneur, régulateur ou même contrôleur? Et donc, pour faire ce travail, il faut travailler sur la question de partenariat. On ne peut pas échapper de la question partenariat public-privé ou même de partenariat au niveau régional pour résoudre ce genre de problème, parce que l'État seulement ne peut pas trouver des solutions à des crises qui sont aussi complexes.
Ça va être un exercice un peu difficile, on n'a que 2 minutes, donc 30 minutes chacun. Comment régler la crise de la pauvreté en Afrique, Ramayad?
Moi, je crois que la clé, c'est de répondre de manière structurelle à cette sous-représentation du continent africain et des pays du sud global, comme on dit maintenant, dans les institutions internationales. Alors, on a pu voir, puisque je vous parle depuis Washington, que s'est tenu ici il y a quelques semaines, un sommet États-Unis-Afrique. Et actuellement même, la secrétaire au Trésor, Yellen, a engagé une grande tournée assez inhabituelle sur le continent africain. Sans doute, ces questions-là seront posées. Je pense que nous sommes dans une période de transition, encore une fois, comme j'ai commencé cette intervention, encore plus. On va passer là d'un impératif de répondre aux crises sur tous ces fronts, crise ukrainienne, crise énergétique, crise alimentaire, etc., crise climatique, à de nouvelles alliances qui vont se bâtir.
D'accord. Et vraiment de nouvelles alliances, d'accord.
Et il est très important de profiter de cette période.
Désolé de vous couper. Oui, désolé. Daouda, rapidement, quelques mots.
Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il sera important pour vraiment maintenir une dynamique de réduction de la pauvreté, de vraiment développer le secteur privé. Je pense qu'à long terme, c'est ce qui sera la base, en fait, d'une politique de réduction de la pauvreté soutenable et viable. Et comment faire ça? Il faudrait, bien sûr, qu'il y ait des partenariats quand même assez performants entre l'État, le secteur public et le secteur privé. Mais il est aussi important, peut-être, pour revenir un peu à la question dont mes collègues parlaient tout à l'heure sur la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. Cela s'avère extrêmement important pour s'assurer que les pays en développement puissent disposer de mécanismes de financement adéquats pour pouvoir financer le développement, les infrastructures, mais aussi de réponse aux crises exogènes telles que la crise iconienne et la crise de la COVID. Et ça, je pense que c'est important de s'y atteler le plus rapidement possible.
Malheureusement, on n'aura pas le temps pour Younes. Ce sera une prochaine fois. Merci énormément à mes invités d'avoir participé à ce Washington Forum qui est à présent terminé. Merci à vous, nos téléspectateurs qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com. Et sur toutes nos plateformes digitales, un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.